Bonjour à tous. Comme nous aimons souvent le faire, nous commençons parfois par agrafe une question, mais je ne peux pas m'attribuer le mérite de la question qui sera à l'origine du message d'aujourd'hui. Je ne peux pas m'en attribuer le mérite. Commençons par agrafe une question que le roi Salomon, fils de David, roi de Jérusalem, a posée. Tournons nos Bibles vers le chapitre 1 de l'Ecclésiaste. Une question qui suit un verset très familier pour la plupart des gens. Je me souviens même d'avoir entendu ces déclarations lorsque j'étais un jeune garçon, car souvent la Bible, les gens ne le savent pas, est la source de nombreuses phrases, des phrases familières telles qu'un tien vaut mieux que deux tu l'auras, un petit oiseau me l'a dit, un homme selon mon propre cœur. Cette phrase est très familière. Mais lisons la question ici dans l'Ecclésiaste 1 verset 10, encore une fois, pour commencer le message. Au verset 10, il demande, y a-t-il quelque chose dont on puisse dire, voyez, c'est nouveau? C'est une question qu'il pose. C'est une question rhétorique, n'est-ce pas? La réponse doit être non. Il n'y a rien de tel. On peut dire que c'est nouveau. Si c'est notre position, je me demande si nous ne l'appliquons pas un peu trop largement. N'y a-t-il vraiment rien de nouveau sous le soleil, comme le dit le verset 9? Une phrase que nous avons tous entendue à un moment ou un autre de notre vie, où pourrait-il y avoir quelque chose de nouveau? À la fin du message, pourrions-nous voir que le contexte ici est un peu plus serré en termes de création, de richesse, de poursuites vaines de l'homme? Nous verrons, mais c'est la question. Y a-t-il quelque chose dont on puisse dire que c'est nouveau? Eh bien, mes frères, nous sommes dans une période de l'année où nous examinons à plusieurs reprises le voyage d'Israël hors d'Égypte. Pourquoi? Eh bien, nous connaissons deux très bonnes raisons. Premièrement, dans le chapitre 10 de la première épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul nous dit de ne pas ignorer qu'Israël a traversé la mer Rouge. Nous ne devons donc pas être ignorants. Nous devons savoir ce qui s'est passé, les événements qui se sont déroulés à l'époque. Deuxièmement, nous devons non seulement connaître, mais aussi comprendre ces événements parce qu'ils contiennent des leçons précieuses à apprendre dans nos vies et à appliquer. Ce sont là deux très bonnes raisons. En particulier en cette période de l'année où nous sortons du service de la Pâque et des jours des pains sans levain et où nous regardons vers l'avant, nous regardons encore à plusieurs reprises ce qui s'est passé avec Israël à l'époque, afin d'en tirer des leçons profondes que nous pourrions appliquer à notre propre vie. Exode 14. Exode 14. Allons-y et voyons ce que nous pouvons apprendre et n'oublions pas que nous essayons de creuser et de voir si nous pouvons trouver quelque chose de nouveau. Exode 14. Un verset que nous avons lu ici ces derniers jours, et le verset 26, le Seigneur dit à Moïse, étends ta main sur la mer, afin que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs cavaliers. Je crois que ce sont 600 chars de choix que Pharaon a envoyés entre les eaux de la mer Rouge pour poursuivre les Israélites. Et au verset 27, Moïse fit exactement ce que Dieu lui avait ordonné de faire. Il étendit la main et la mer reprit sa force à l'aube, au moment où le soleil se levait et où les Égyptiens essayaient de fuir. L'Éternel, est-il dit, renversa les Égyptiens au milieu de la mer. Au verset 28, on lit, les eaux couvrirent les chars. Nous connaissons ce récit, les chevaux et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après eux, il n'en resta pas un seul, est-il dit. Tous les cavaliers de Pharaon, les chars, les hommes qui les montaient, pas un seul n'a survécu. Verset 29. Les enfants d'Israël marchaient à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient une muraille à leur droite et à leur gauche. Verset 30. Il est écrit, ainsi. Parfois, les plus petits mots de la Bible parlent puissamment, par exemple, À moi, à vous. Nous allons voir quelques petits mots qui, si vous en comprenez le sens et ce à quoi ils sont liés, peuvent conduire à une compréhension étonnante, à la connaissance. Le mot ainsi signifie de cette façon, par ce moyen. Et cela a automatiquement fait surgir une question dans ma tête. Il est dit, l'Éternel sauva Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit les Égyptiens morts sur le rivage de la mer. Ils ont été visuellement témoins de cela, et Israël a vu cette grande œuvre que le Seigneur a accomplie sur les Égyptiens. Il est dit que le peuple craignit l'Éternel et le crut, lui et son serviteur Moïse. Il s'agit là d'un événement étonnant. Dieu a délivré Israël de l'Égypte, et il l'a fait de manière spectaculaire. Essayez de vous imaginer dans cette scène et de voir exactement ce qui s'est passé. Vous courez avec vos enfants, tous vos biens, vos proches, dans une direction et vous entendez le tonnerre des chars, et quand vous passez de l'autre côté, vous voyez qu'ils arrivent exactement par le même chemin que vous avez pris pour fuir, et vous voyez au loin Moïse lever la main, et alors les eaux s'effondrent. En quelques secondes, une armée entière qui provoquait la peur, si vous voulez, dans le monde à cause de sa taille et de sa stature, a été instantanément détruite. Alors que nous tirons des leçons des expériences d'Israël, une question importante m'est venue à l'esprit lorsque j'ai lu le mot ainsi. Pourquoi Dieu a-t-il agi de cette manière? Pourquoi Dieu l'a-t-il fait de cette manière? Je ne fais pas seulement référence à l'événement de la mer rouge. Pourquoi a-t-il fallu la dixième plaie pour que la volonté de Dieu de libérer Israël s'accomplisse? Exode, chapitre 12. Exode, chapitre 12. Rappelez-vous, nous cherchons, nous creusons pour voir si nous pouvons découvrir quelque chose de nouveau. Exode, chapitre 12 et verset 21. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, « Tirez, prenez un agneau selon vos familles, et immolez la Pâque. Vous frapperez de sang le linteau et le poteau, verset 22, puis le linteau et le poteau, verset 23, etc. Vous frapperez de ce sang le linteau et le poteau, verset 22. Au verset 23, « Car l'Éternel passera pour frapper les Égyptiens, et quand il verra le sang, l'Éternel passera et n'entrera pas dans vos maisons pour vous frapper. » Nous reprenons au verset 28, « Les enfants d'Israël s'en allèrent et firent exactement ce que l'Éternel avait ordonné. » Puis nous arrivons au verset 29. À minuit, le Seigneur frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né des prisonniers qui étaient dans les cachots. Et il est dit, même les premiers-nés du bétail tombaient comme des mouches au milieu de la nuit. On entendait les cris des familles, des mères, des pères, tandis que leurs premiers-nés mouraient les uns après les autres. Pourquoi Dieu prendrait-il des mesures aussi extrêmes, mes frères? 12 chapitres. Si vous revenez en arrière et que vous le lisez, 12 chapitres sont consacrés à détailler la délivrance d'Israël par Dieu. C'est extraordinaire. Du chapitre 3 de l'Exode au verset 2, lorsque l'ange de l'Éternel est apparu à Moïse et a exposé le plan que Dieu avait pour libérer Israël des liens de l'Égypte, jusqu'à Exode 14, 30, que nous venons de lire, c'est ainsi que l'Éternel sauva Israël, ce jour-là, de la main des Égyptiens. Mais encore une fois, pourquoi utiliser des mesures aussi extrêmes? Quel était l'objectif de Dieu? Qu'est-ce qui était si important pour que Dieu utilise des fléaux aux proportions épiques pour libérer et arracher Israël aux griffes de l'Égypte? Était-ce parce que Dieu voulait les faire entrer dans le pays où coule le lait et le miel, comme il est dit dans Exode 3, 8? Oui. Est-ce parce que Dieu, dans Exode 5, 1, révèle qu'il voulait qu'il lui organise un festin dans le désert? Cela aussi. Oui. Serait-ce parce que Dieu voulait qu'il lui offre des sacrifices, Comme il est dit dans Exode 8, 8, tous contenus dans ces 12 chapitres. Oui. Oh, et Dieu a-t-il utilisé la mort de chaque premier-né pour libérer Israël afin qu'il le serve, comme il l'a dit dans Exode 7, 8, 9, 10, etc. Frères et sœurs, oui, oui, oui et oui. C'est pourquoi nous pouvons lire ce qui suit au verset 41. Au bout de 430 ans, le même jour, toutes les armées, tout le peuple que l'Éternel voulait faire sortir d'Égypte, s'en allèrent du pays. Mais, frères, je ne veux pas que nous ne comprenions pas pourquoi ces événements se sont produits de cette manière. Tous ces événements annoncent quelque chose dans l'avenir. Quelque chose d'extraordinaire. Arrêtons-nous à Ésaïe 43 avant de passer au Nouveau Testament. Ésaïe 43. Je viens de lire deux des événements miraculeux associés à la fuite d'Israël. Mais pourquoi ? Ésaïe 43, verset 15. Je suis l'Éternel, ton Saint, le Créateur d'Israël, ton Roi. Je ne sais pas s'il existe beaucoup d'autres endroits où Dieu parle et s'identifie avec des titres aussi puissants. Verset 16. Ainsi parle le Seigneur, le Saint, le Créateur d'Israël, nous pourrions dire le Créateur de nous aussi, l'Israël spirituel, votre Roi, qui fraye un chemin dans la mer. Il évoque maintenant par l'intermédiaire d'Ésaïe des souvenirs concernant ce qui s'est passé, ce que nous venons de lire dans l'Exode. Qui trace un chemin dans la mer, un sentier dans les eaux puissantes, qui fait surgir le char et le cheval, l'armée et la puissance. Ils se coucheront ensemble et ne se relèveront pas. Ils ont disparu. Et il est dit, éteint comme un orteil. Cela signifie, en substance, que si vous pouvez vous imaginer en train de vous lécher les doigts et d'éteindre la mèche d'une bougie, la flamme. C'est ce que Dieu a fait. Il les prépare pour le verset 18. Ne vous souvenez plus des choses passées, et ne considérez plus les choses anciennes. Voici, verset 19, je vais faire une chose nouvelle. Intéressant. Elle jaillira, ne le saurez-vous pas? Dieu le demande à nouveau par l'intermédiaire du prophète Ésaïe. Et il prépare cette question et cette déclaration sur la nouveauté en leur rappelant ce qui s'est passé à l'époque des pains sans levain. Après s'être identifié avec force, Dieu rappelle à Israël qu'il l'a sauvé de l'Égypte. Pourquoi ? Eh bien, il commence à révéler son objectif primordial. Il dit, « Je ferai une chose nouvelle. » La question qui se pose aujourd'hui, mes frères, est la suivante, « Le saurons-nous ? » Allons-nous non seulement le savoir, mais aussi le comprendre au point de pouvoir l'appliquer dans nos vies, alors que nous traversons ces jours de pain sans levain? Je l'espère. Car Dieu a certainement sauvé Israël de l'Égypte par ses événements miraculeux, en tuant les premiers-nés, en les guidant à travers la mer rouge. Il les a effectivement conduits dans la terre promise, où le lait et le miel coulaient à flots. C'est ce qu'il a fait. Israël en a fait l'expérience. Ils ont fait la fête pendant 40 ans. C'est aussi ce qu'ils ont fait. Ils lui ont offert des sacrifices et l'ont servi dans le désert. Encore une fois, oui, 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 et oui, tout est passé. Alors, quelle nouvelle chose Dieu avait-il en tête? Voyons quel parallèle l'apôtre Paul a tiré de l'Exode. Le même apôtre qui nous a parlé dans la première lettre aux Corinthiens en nous disant de ne pas ignorer qu'Israël a traversé la mer. Quelle nouveauté aurait pu surgir? Passons au chapitre 6 de l'Épître aux Romains. Y a-t-il quelque chose de nouveau sous le soleil, frère? Quelle est la chose nouvelle que le Seigneur, le Créateur, le Roi, a faite? Quelle connaissance pouvons-nous en tirer? Quelles leçons ont été tirées de ces événements pour que nous puissions les comprendre, les apprécier et les appliquer de manière très concrète? Romains, chapitre 6 et verset 3, ne savez-vous pas que tous ceux d'entre nous qui ont été baptisés en Jésus-Christ. Rappelons que la première épître aux Corinthiens nous dit qu'Israël a été baptisé sous Moïse lorsqu'il a traversé la mer. Permettez-moi de lire à nouveau, ne savez-vous pas que tous ceux d'entre nous qui sont baptisés en Jésus-Christ sont baptisés dans sa mort? Nous avons donc été ensevelis avec lui, Christ, par le baptême dans la mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous marchions, nous aussi, en nouveauté de vie. Paul établit de puissants parallèles entre l'Israël physique et nous, frères, l'Israël spirituel. La grande nouveauté que Dieu avait à l'esprit allait au-delà des fêtes qu'il célébrait, au-delà des fêtes que nous célébrons, au-delà des sacrifices qu'il pratiquait, au-delà des sacrifices que nous faisons dans notre propre vie en suivant ce mode de vie, au-delà du service qu'il rendait à Dieu et au-delà du service que nous rendons à Dieu tous les jours. La grande nouveauté, mes frères, c'est la nouveauté de vie. Dieu leur a donné une nouvelle vie. Israël a vu les Égyptiens morts sur le rivage. Ils ne sont pas morts lorsqu'ils ont traversé les eaux. Israël a vu tous les miracles, mais ils ne pouvaient pas voir ou apprécier comme nous le pouvons, la nouveauté de vie qui nous a été donnée. Et mes frères, cette période de l'année l'illustre si merveilleusement, mais malheureusement, de nombreux Israélites spirituels au cours du millénaire n'ont pas vu cela, n'ont pas vu ce que représentait non seulement la nouveauté de la vie, mais aussi comment ils pouvaient la vivre jusqu'à la fin. Dieu en a appelé beaucoup pour les faire sortir de ce monde par un événement plus spectaculaire que ceux décrits dans l'Exode, et cet événement a été le sacrifice du Christ. Dieu en chair a été tué comme la Pâque, comme il est dit dans le chapitre 5 des 1 Corinthiens. Lorsque nous avons accepté la Pâque du Christ, lorsque nous avons accepté son sacrifice de sang et lorsque nous sommes entrés dans sa mort par le baptême pour nos péchés, ce qu'Ésaïe appelle d'ailleurs les choses anciennes, les choses du passé. Dieu a donné à chacun d'entre nous une nouvelle vie dont nous avions désespérément besoin. Frères et sœurs, Paul nous dit ce qu'il faut faire de cette vie nouvelle. Il dit, vivez-la. Aujourd'hui, nous allons examiner ce que signifie vivre en nouveauté de vie, et ce n'est pas facile, mes frères. Pourquoi le serait-ce? Les églises du monde, les protestants, les catholiques, les églises non confessionnelles, pensent qu'il est facile de vivre cette nouveauté de vie. Ce n'est pas du tout facile. La nouveauté de vie a des implications que le monde veut ignorer. Mes frères, la Bible contient de nombreux exemples d'individus dont nous pourrions examiner la vie, qui ont marché dans la nouveauté de vie que Dieu leur a donnée, qu'il leur a destinée. Prenons l'exemple de Moïse, qui s'est interrogé sur lui-même et sur sa capacité à représenter Dieu, à diriger une nation. Il parlait lentement, mais sa nouvelle vie consistait à diriger d'autres personnes, une nation entière, à être le plus grand prophète d'Israël qui parlait à Dieu face à face. Pensez à Rahab et à Marie-Madeleine. Rahab était une prostituée, mais la nouvelle vie de Rahab comprend l'arrière-arrière-grand-mère de David, la lignée de Jésus-Christ, et elle est mentionnée dans le temple de la foi. Marie-Madeleine était possédée par agrafe sept démons, et il est dit qu'elle souffrait d'infirmité, au pluriel. Mais sa nouvelle vie, y compris sa guérison de ses infirmités, sa libération de ses démons, et le fait qu'elle soit devenue l'une des disciples les plus dévouées du Christ pendant son ministère terrestre. Je pourrais continuer. Siémon, Sal. J'aime mentionner le fils du tonnerre. Tous ces hommes ont dû apprendre ce que signifiait la nouveauté de la vie, et ils ont dû la vivre. Simon a injurié des filles. Il s'est coupé une oreille, mais sa nouvelle vie était celle d'un homme qui devenait semblable au Christ, soumis, honorable, inoffensif, véridique. Saul, qui a essayé de détruire l'Église, était un fanatique religieux imbu de sa personne qui se comportait comme un tueur fou lorsqu'il poursuivait des frères chrétiens pour les condamner à mort. Mais Paul est devenu l'homme même qui a construit les églises qu'il a essayé de détruire. Le fils du tonnerre était égocentrique, il faisait de l'autopromotion et souffrait d'accès de colère. Il a même demandé la permission de faire pleuvoir le feu sur un village entier pour détruire hommes, femmes et enfants parce qu'ils ne voulaient pas recevoir la bonne nouvelle de l'évangile qu'ils écoutaient. Mais la nouveauté de vie de l'apôtre Jean, y compris le fait d'être connu pendant des milliers d'années comme l'apôtre aimé. Et lui, comme beaucoup de ces hommes dont j'ai parlé, est mort pour Christ. Ce sont là des exemples palpables de la nouveauté de vie que Paul nous demande de vivre. Deuxième chapitre des Corinthiens. Deuxième chapitre des Corinthiens. Toutes ces personnes ont eu un passé, parfois pire que le nôtre, sans doute. En ce sens, ils ne sont pas différents. Deuxième chapitre des Corinthiens et verset 14, l'amour du Christ nous contraint à juger ainsi. Cela signifie que c'est ainsi que nous pensons. Si un seul est mort pour tous, tous sont morts. Il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus désormais pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort pour vous et qui est ressuscité. C'est pourquoi nous ne connaissons pas d'homme selon la chair. Oui, si nous avons connu Christ dans la chair, nous ne le connaissons plus. C'est pourquoi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Pensez à Ésaïe 43, toutes les choses sont devenues nouvelles, pas certaines, frères, toutes. Ce que je trouve fascinant, c'est que Paul nous fait part de ce qu'il se rappelait sans doute régulièrement à lui-même. Il avait un passé terrible. Vous et moi, et nous devons parfois nous rappeler que nous aussi, en Christ, nous sommes devenus de nouvelles créatures, et ce mot, nouvelle créature, signifie formation originale. Il ne s'agit pas d'une version améliorée de ce que nous sommes, mais d'une création originale ou d'une formation originale qui nous a été donnée par Dieu. Et Dieu en parlait et a inspiré les Écritures pour parler de cette formation originelle. Frères et sœurs, nous n'essayons pas de vivre notre vie dans une version améliorée de ce que nous étions. Nous sommes de nouvelles créations, des formations originales, créées par Dieu pour vivre la nouveauté de vie que Paul nous a dit que nous devions tous vivre. Le point le plus important ici est que vivre en nouveauté de vie signifie que les choses anciennes sont passées. Rappelez-vous que Dieu a ordonné au prophète Ésaïe de dire au peuple d'oublier, de ne pas se souvenir des choses anciennes, ni même de considérer les choses d'autrefois. Frères et sœurs, Dieu a fait quelque chose de nouveau avec vous et moi. Nous sommes devenus nouveaux. Nous sommes la chose nouvelle qui a germé. Galates, chapitre 6. Galates, chapitre 6. Frères, nous sommes la chose nouvelle, mais qu'est-ce que cela signifie? Galates 6 et verset 11. Vous voyez quelle lettre volumineuse je vous ai écrite de ma propre main, à tous ceux qui voulaient faire bonne figure. Cela signifie qu'ils s'exhibent dans la chair, qu'ils vous contraignent ou vous forcent à devenir ou à être circoncis, seulement pour qu'ils souffrent. Et la seule raison pour laquelle ils le font, dit Paul, c'est pour éviter d'être persécutés pour la croix du Christ, car eux-mêmes, qui sont circoncis, n'observent pas la loi. Paul dit, regardez ce qu'ils essaient de faire, et ils ne respectent même pas la loi. Le fait d'être circoncis ne vous aide pas à observer la loi. Nous lirons cela un peu plus tard. Verset 13. Car ceux qui sont circoncis ne gardent pas la loi, mais ils veulent vous faire circoncire pour se glorifier dans votre chair. Mais Dieu me garde de me glorifier autrement que par la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par laquelle le monde a été crucifié pour moi et moi pour le monde. En effet, Dans Christ Jésus, ni la circoncision ni l'incirconcision ne servent à rien, mais on est une nouvelle créature. Voilà, mes frères, rien ne comptait pour Paul. Rien d'autre ne devrait compter que de vivre dans une nouveauté de vie en devenant une nouvelle création en Christ, un point c'est tout. Rien n'a d'importance si ce n'est la nouveauté de vie qui nous a été donnée en tant que formations originales de Dieu en Christ. Que signifie la nouveauté de vie? Qu'est-ce que cela devrait signifier pour vous et moi? Comment pouvons-nous vivre dans la nouveauté de la vie? À quoi cela ressemble-t-il? Pour le reste du message, je vais passer en revue plusieurs éléments de ce qu'il faut pour vivre dans la nouveauté de la vie. Revenons à Ésaïe 43, où nous en étions. Nous avons reçu cette nouveauté de vie, mais qu'est-ce que cela signifie? C'est là que nous nous distinguons, mes frères, des messages à l'eau de rose que nous entendons dans les églises du monde. C'est là que le caoutchouc touche la route pour nous en tant que nouvelles formations originales en Christ. Reprenons le livre d'Ésaïe 43 là où nous l'avons laissé il y a quelques instants, au verset 18, « Ne vous souvenez pas des choses passées et ne considérez pas les choses d'autrefois. » C'est un ordre de Dieu. Et ce n'est pas tout ce que Dieu a à dire à ce sujet. Si vous passez au verset 25, c'est puissant, il dit, je, et j'aime que les traducteurs aient mis le mot même là, je et ce que Dieu a dit, mais les traducteurs l'ont mis comme, je, mais moi, suis celui qui efface vos transgressions pour mon propre compte. C'est un commentaire intéressant, une déclaration intéressante de Dieu, et je ne me souviendrai pas de vos péchés. Frères et sœurs, pour vivre en nouveauté de vie, premièrement, nous devons nous rappeler d'oublier notre passé. Les choses d'autrefois, n'y pensons même pas. Nous pouvons nous demander ce que Dieu a voulu dire en disant « pour l'amour de Dieu », mais nous n'avons pas à réfléchir. Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi nous devons oublier et ne pas considérer les choses anciennes pour notre propre bien. Parce qu'une fois que nous avons demandé à Dieu le pardon des péchés que nous avons confessés, nous avons pris le temps, pendant la période précédant la Pâque, de nous examiner nous-mêmes. Nous avons permis à Dieu de nous révéler les domaines dans lesquels nous n'étions pas à la hauteur. Nous les avons confessés, admis et nous nous sommes engagés à changer. Dieu nous a alors pardonnés et il est écrit, nous les avons oubliés. Nous devons oublier nos péchés pour notre propre bien. J'aimerais que nous réfléchissions très sérieusement, que nous prenions le temps d'examiner nos vies. Nous avons pris les symboles de la Pâque, nous sommes passés par les jours des pains sans levain. Nous nous sommes engagés à changer et à purger nos vies du péché, nous devons donc le faire. Ce n'est pas que nous devrions simplement, nous devons oublier ce passé parce que nous avons d'autres choses à faire, mes frères. Si je ne faisais pas ce premier point, nous ne pourrions pas continuer à discuter de tous les autres points. Si nous sommes occupés à nous souvenir de nos péchés, ceux pour lesquels nous venons de demander pardon, et que nous ne les oublions pas comme Dieu l'ordonne dans Ésaïe 43, alors nous ne pouvons pas nous occuper des choses que nous devons faire pour continuer à vivre la nouveauté de la vie. Si nous continuons à nous en souvenir, voici quelque chose d'illogique, ne sommes-nous pas en train de désobéir à Dieu? Si nous continuons à ressasser notre passé, à considérer les choses anciennes, sommes-nous en train d'oublier ou, pire encore, de rejeter la puissance du sacrifice du Christ? Ce serait illogique. Nous devrions nous repentir parce que nous nous souvenons de ce dont nous nous sommes repentis. Cela n'aurait aucun sens. Nous serions constamment dans cet argument circulaire sans pouvoir en sortir. Frères et sœurs, si Dieu peut pardonner et oublier à cause de lui, alors il peut, par son esprit, nous aider à pardonner et à oublier nos péchés à cause de nous. Ce qui est en jeu, c'est de vivre la nouveauté de la vie. Encore une fois, J'aime la façon dont Dieu a répété « je » pour mettre l'accent sur ce point. C'est moi qui efface vos transgressions. Cela ressemble beaucoup à l'échange que Christ a eu avec la femme prise en flagrant délit d'adultère, si vous vous en souvenez. Après avoir expédié ces hommes prêts à la lapider, il s'est retourné vers elle et lui a dit « moi non plus, je ne te condamne pas, et je pourrais ajouter « je te condamne ». Il a ajouté « va, et ne pêche plus ». Mais ce qu'il n'a pas ajouté, c'est « souviens-toi de ce moment, souviens-toi de ce que tu as fait ». Il a dit « non ». Allez, avancez et ne péchez plus. Concentrez-vous sur la nouveauté de la vie, car même moi, je ne vous condamne pas. C'est la même chose que Dieu a dit dans Ésaïe 43. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens 4. Au verset 22, nous allons nous plonger dans la pensée, dépouillez-vous de votre ancienne conduite, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et soyez renouvelés dans l'esprit de votre intelligence, afin de revêtir l'homme nouveau. Créez. Écoutez attentivement, créez dans la justice et la vraie sainteté. Vous vous souvenez de la formation originale dont nous avons parlé? Cette formation originale, il est dit ici qu'il s'agit d'un homme nouveau créé, fabriqué, manufacturé dans la justice et la vraie sainteté. Plutôt que de vivre en nouveauté de vie, nous devons nous souvenir d'oublier notre passé. La deuxième étape serait de vivre en nouveauté de vie, nous devons revêtir l'homme nouveau. Notre nouvel homme a été créé dans la justice et la vraie sainteté. Il y a plus à entendre qu'il n'y paraît. Ce ne sont pas des mots que nous lisons occasionnellement. Nous devons regarder le grec pour comprendre la puissance du commandement de Paul ici, car il s'agit d'un commandement. Tout d'abord, cette phrase, l'ancienne conversation, est mieux traduite par l'ancien mode de vie. Ensuite, il faut une virgule. L'ancien mode de vie, le vieil homme. Ce qui veut dire que l'ancien mode de vie et le vieil homme sont exactement la même chose. Ils sont synonymes. On ne peut pas les distinguer. Cette phrase, qui est corrompu, devrait être traduite par qui est corrompu. Au présent, comme au présent progressif, si vous voulez. Il est impossible pour notre ancien moi d'échapper à la corruption de ce monde. Nous pouvons essayer de penser que notre ancien moi ne peut pas être corrompu, mais Paul dit qu'il est corrompu. Nos anciens modes de vie sont corrompus par le monde qui nous entoure. Cela m'a rappelé une histoire que mes parents nous ont racontée lorsque nous étions de jeunes garçons et qu'ils nous ont emmenés à New York. Je devais avoir 8 ou 9 ans, peut-être 10 à l'époque. L'un d'entre nous, je ne sais plus qui c'était, l'un de mes frères, a remarqué une vendeuse de sacs. Combien d'entre vous savent ce qu'est une femme de sac à New York? D'accord. Pour ceux qui ne le savent pas, il s'agit essentiellement d'une femme sans domicile fixe, en l'occurrence une femme sac. C'est ainsi qu'on les appelait à l'époque, dans les années 1970, je crois. La femme au sac. Ils portaient plusieurs couches de vêtements. Ils portaient tous les vêtements qu'ils avaient. Vous voyez des couches de vêtements les unes après les autres. Je me souviens de cet événement particulier parce qu'elle avait un chariot d'épicerie qui transportait tout ce qu'elle possédait, à l'exception peut-être d'un évier de cuisine. Elle se promenait dans la ville de New York et nous étions curieux de dire « qu'est-ce que c'est ?» Ma mère et mon père nous expliquaient qu'il s'agissait d'une femme de sac. Je me souviens vaguement de deux grands sacs à main logés parfaitement à cet endroit de son corps. Elle avait deux sacs à main glissés dans ses couches de vêtements. Je pense que c'est peut-être en partie pour cela qu'ils ont imaginé la femme au sac. C'était un véritable spectacle pour une enfant de 8, 9, 10 ou 11 ans. En y repensant, Je me suis dit, elle avait l'air ridicule. Eh bien, mes frères, pourquoi raconterais-je cette histoire? Si vous regardez la phrase du verset 23, soyez renouvelés, et revêtez l'homme nouveau, ces deux phrases ne sont pas très bien traduites non plus. Elles devraient se lire, soyez renouvelés dans l'esprit de votre intelligence. L'autre phrase devrait se lire, revêtir l'homme nouveau. Frères et sœurs, ce sont des objectifs. Ce sont des buts, ce que nous devrions nous efforcer d'atteindre. Nous devrions nous efforcer d'être renouvelés dans l'esprit de notre intelligence. Nous devons nous efforcer de revêtir l'homme nouveau. Cela signifie, et c'est un antécédent, que tout ce que Paul a établi jusqu'à ce point, la seule façon de le faire, d'être renouvelé dans l'esprit de nos pensées, de revêtir l'homme nouveau, c'est d'abord de se dépouiller du vieil homme. En d'autres termes, vous ne pouvez pas porter les deux en même temps. C'est absolument impossible. On ne peut pas porter le vieil homme et l'homme nouveau en même temps dans notre vie. Pour Dieu, c'est aussi ridicule que l'est la femme au sac dans mon esprit quand je pense à elle. Nous devons choisir la tenue que nous allons porter chaque jour de notre vie. Nous ne pouvons pas porter en même temps notre ancien moi et le nouveau que Dieu a créé, en passant, dans la justice et la vraie sainteté. Poursuivons ici au verset 25. Voyons comment Paul décrit cela. C'est pourquoi, renonçant au mensonge, le vieil homme, dit à chacun la vérité à son prochain, l'homme nouveau, car nous sommes membres les uns des autres. Il faut donc renoncer au mensonge pour pouvoir revêtir la vérité. On ne peut pas mentir et dire la vérité en même temps. C'est absolument impossible. Mets-toi en colère et ne pêche pas. C'est le nouvel homme. Ne laisse pas le soleil se coucher dans ta colère, parce que si tu le fais, c'est le vieil homme. Ne vous mettez pas au lit dans la colère. Ne cédez pas au diable, c'est le vieil homme. Que celui qui a volé, le vieil homme, ne vole plus, le nouvel homme. Qu'il travaille plutôt, qu'il fasse de ses mains ce qui est bon. Voici un point important. Il s'agit de vivre la nouveauté de la vie. Je vais l'insérer ici. Il veut que la personne qui volait, le vieil homme, ne vole plus afin qu'il puisse travailler de ses mains la chose bonne qu'il peut avoir ou que je veux avoir. Mais pourquoi est-ce que je veux avoir? Il est dit ici que l'homme bon ou l'homme nouveau peut avoir pour donner à celui qui a besoin. C'est la nouveauté de la vie, mes frères. La raison pour laquelle je travaille avec ses mains, c'est pour pouvoir donner à ceux qui ont besoin. Qu'aucune parole corrompue ne sorte de votre bouche, le vieil homme, mais ce qui est bon pour l'édification, afin d'apporter la grâce à ceux qui écoutent, c'est le nouvel homme. N'attristez pas le Saint-Esprit, c'est-à-dire le vieil homme, par lequel vous êtes scellés pour le jour de la rédemption. Le Saint-Esprit ne peut pas travailler avec le vieil homme. Le Saint-Esprit ne peut agir que sur ce qui a été créé par Dieu dans la justice et la vraie sainteté, c'est-à-dire l'homme nouveau. Vous êtes ainsi scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, tout emportement, toute colère, toute clameur, toute parole méchante disparaisse de vous avec toute espèce de malice. Vous savez ce que cela décrit? Un vieil homme amer, colérique, clamant et grossier. Paul dit qu'on ne peut pas porter cela et être bon les uns envers les autres. Tendre, se pardonner les uns aux autres, comme Dieu à cause de Christ. Frères et sœurs, cela vaut la peine d'être souligné. Souvenez-vous, dit Dieu, j'efface vos péchés. J'efface vos erreurs, mets-moi à cause de moi. Ici, il est dit, soyez bons les uns envers les autres, tendres, vous pardonnant les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné pour l'amour du Christ. Oh là là! Ésaïe 43, à cause de moi, et Dieu a dit à cause du Christ, il vous a pardonné. Frères et sœurs, si vous vivez à la manière de Dieu, vous vous trouverez tout au long de la journée, chaque jour, en train d'enlever le vieil homme et de revêtir, en toute situation, l'homme nouveau. C'est le combat de notre vie et, parfois, nous ne nous rendons même pas compte que nous portons notre vieil homme, notre vieux moi. Mais je suis heureux que nous ayons des personnes proches les unes des autres, proches de moi, qui m'aident à m'en rendre compte. C'est en partie pour cette raison que Paul a dit aux Colossiens ce qui suit. Passons à Colossiens 3, verset 9. Ne vous mentez pas les uns aux autres, puisque vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et que vous avez revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé, où il n'y a ni grec ni juif, ni circoncision ni incirconcision, ni barbare ni scythe, ni esclave ni libre, mais où Christ est tout, en tous. Frères et sœurs, ce mot mensonge signifie bien mensonge, mais il peut aussi signifier tentative de tromperie. J'aime donc le lire ainsi. Essayez de ne pas vous tromper les uns les autres. Nous ne devrions pas essayer de donner l'impression que nous sommes vêtus de notre nouvel homme alors qu'en réalité nous portons notre vieil homme, notre ancien moi. Et je suis reconnaissant d'avoir ma femme et mes filles qui connaissent probablement mon vieux père mieux que quiconque. Mais peut-être n'avez-vous pas de femme ou d'enfants qui connaissent votre vieux père, qui peuvent l'identifier plus rapidement et plus facilement que n'importe qui d'autre, mais les ministres peuvent vous aider. Il n'est pas difficile de l'identifier. Nous venons de voir quelques-uns des identificateurs que nous avons tous, comme notre vieil homme ou notre vieux moi. Les frères peuvent nous aider à réaliser. Avez-vous déjà demandé à quelqu'un « ça me va bien » Eh bien, je n'ai même pas besoin de demander. J'apprécie le fait que ma femme, mes filles et n'importe qui d'autre, lorsqu'ils voient leur ancien moi, se rendent compte que vous portez peut-être votre ancien homme. Vous devriez peut-être changer de tenue. Elles ne le disent pas en ces termes, mais c'est la façon dont elles communiquent avec moi. Je suis reconnaissante aux hommes et aux femmes avec lesquels je travaille chaque jour, parce qu'ils m'aident à me débarrasser de mon ancien moi et à revêtir rapidement mon nouveau moi. Frères et sœurs, parfois nous ne nous en rendons pas compte, et c'est pourquoi nous nous aidons les uns les autres dans l'amour. Et lorsque cela se produit, que nous nous rendions compte nous-mêmes que nous portons le vieil homme, ou que quelqu'un d'autre nous l'indique ou nous aide à reconnaître que nous portons le vieil homme, ce que j'aimerais dire, c'est que nous avons la capacité de tirer Superman. Nous pouvons revêtir notre costume de super-héros en un instant. C'est une décision consciente que nous prenons. Et le verset 10 révèle l'importance monumentale de revêtir notre nouvel homme. Il dit que notre connaissance de Dieu est renouvelée lorsque nous faisons cela. Et nous pouvons demander toute la journée, « Je veux connaître Dieu. Je veux qu'il me révèle les vérités profondes de ses Écritures. Je veux comprendre l'Esprit de Dieu. » Cela peut ressembler un peu, vous savez, si vous vous souvenez des Peanuts, le vieux dessin animé, les enseignants, « Wa, wa, wa. » Ouah. Nous luttons et nous nous efforçons de connaître les choses profondes de Dieu, son esprit et toutes les vérités qu'il peut nous révéler. Pourquoi ne pas travailler très dur chaque jour pour garder ce vieil homme mort là où il doit être et revêtir cet homme nouveau chaque jour? Et nous savons à quoi ressemble l'homme nouveau. Tout ce que nous avons à faire, c'est de sauter au verset 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles de la terre. Revêtez donc, c'est une description de l'homme nouveau, le même langage de travail, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, des entrailles de miséricorde, de la bonté, de l'humilité, de la douceur, de la longanimité, vous supportant les uns les autres et vous pardonnant les uns aux autres. Si quelqu'un a un différend avec quelqu'un, comme Christ vous a pardonné, faites-le vous aussi. Et par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour, de la charité, qui est le lien de la perfection. Voilà à quoi ressemble le nouvel homme. Nous n'avons pas à le deviner. Notre nouvel homme, notre nouvelle femme, si vous voulez, est habillé de miséricorde et de bonté, d'humilité, de douceur, de longanimité. Je pourrais ajouter les autres fruits de l'esprit. Lorsque nous portons ces fruits, mes frères, nous sommes spectaculaires. Nous avons fière allure. Nous mettons ces accessoires ou ces vêtements principaux que sont l'amour, la joie, la paix, la douceur, la bonté, la tempérance. Nous avons eu récemment un dîner dansant, le dîner dansant de printemps. C'était un événement merveilleux. Les gens étaient sur leur 31, les dames étaient magnifiques dans leurs robes, les hommes avaient sorti, pour certains, leurs plus beaux costumes, leurs nœuds papillons, leurs plus belles cravates. Les hommes avaient sorti, pour certains, leurs plus beaux costumes, leurs nœuds papillons, les plus belles cravates qu'ils pouvaient porter. Nous étions tous magnifiques. Cela ne fait aucun doute. Mais ce que j'ai vu ce jour-là, sur la piste de danse et autour des tables, ce sont des gens habillés de la sorte. Ils brillent de mille feux. J'ai noté dans mes notes qu'ils brillaient plus que Cendrillon ou le prince charmant parce qu'ils portaient le nouvel homme. Éphésiens, chapitre 2, verset 11. Paul s'adresse aux Éphésiens en tant que païens qui n'ont pas connu Christ. Il dit qu'ils étaient étrangers à la promesse faite à Israël. Mais au verset 13, il est dit, « Mais ils sont maintenant dans Christ Jésus, dans son sang. » Pensez à la Pâque, à l'agneau de la Pâque dont nous avons parlé au début de ce message. Paul dit ensuite que Christ sacrifié, au verset 15, a aboli l'animosité entre les païens et les juifs, mais nous pourrions dire que tous ceux qui sont en Christ sont des frères. Il poursuit en expliquant l'objectif primordial, pour faire en lui-même un seul homme nouveau. Il s'agit donc de faire la paix entre les personnes de toute race, langue et culture. Au verset 16, afin que lui, Christ, réconcilie tous les hommes avec Dieu en un seul corps. Frères et sœurs, la troisième façon dont nous connaissons et pouvons vivre la nouveauté de la vie dans sa plus grande application, je pense que cela signifie que nous sommes un seul homme nouveau, et non plusieurs. Nous venons de passer plusieurs minutes à parler du fait que chacun d'entre nous s'efforce de revêtir l'homme nouveau en se débarrassant du vieil homme et de ses habitudes. Mais avez-vous remarqué cette merveilleuse vérité? Lorsque nous nous débarrassons individuellement du vieil homme et que nous vivons dans une vie nouvelle grâce à l'homme nouveau, nous devenons un seul homme nouveau, un seul corps. C'est ce qui est écrit. Paul révèle que Christ fait un homme nouveau en lui-même pour présenter un seul corps à Dieu. Permettez-moi donc de le dire clairement. Dieu ne reçoit pas, disons, toi là-bas, toi derrière, toi ici, et moi ici séparément. Il est dit que Dieu nous reçoit tous comme un seul homme nouveau. C'est ainsi que Dieu nous voit. C'est l'objectif du Christ. Et parfois, il est difficile de se faire une idée de ce concept. Nous pensons à nos vies individuelles. Chaque baignoire est assise sur son fond, mais lorsque nous sommes assis sur notre fond et que nous vivons notre nouveauté de vie par le biais de l'homme nouveau qui a été conçu et fabriqué dans la justice et la sainte vérité, nous devenons un seul homme, un seul corps. C'est ce que nous avons appris pendant le service de la Pâque. Le corps du Christ a été brisé pour que nous devenions un. Si nous allions à Ézéchiel 18 ou Ézéchiel 36, Dieu parle encore et encore d'un cœur nouveau, d'un esprit nouveau. Mais je pense que c'est Ézéchiel 11 qui l'exprime le mieux. Il n'est pas nécessaire d'y aller. Permettez-moi de vous le lire. Verset 16. Vous pouvez en prendre note. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur Dieu, bien que je les ai jetés au loin parmi les nations, et que je les ai dispersés, parlant d'Israël, parmi les pays, parlant encore d'Israël, cependant je serai pour eux comme un petit sanctuaire dans les pays où ils viendront. Au verset 19, il est dit, « Je leur donnerai un seul cœur. » Frères et sœurs, cela veut dire « unis ». Et cœur est ici au masculin singulier, ce que je viens de vous lire. Pas un tas de cœurs. Et il dit, « Et je mettrai un esprit nouveau. » Dieu a un seul esprit, et il veut donner à son Église, le corps du Christ, un seul cœur. Si cette prophétie d'Ézéchiel s'appliquait à l'Israël physique, combien plus ce principe s'applique-t-il à nous, l'Israël spirituel de Dieu ? Actes des Apôtres, chapitre 2. C'est le cas, et de manière très tangible. Voici ce qu'exige la nouveauté de vie. Actes des Apôtres, chapitre 2 et verset 42. Un verset que nous connaissons tous, mais qui vaut la peine d'être répété. Ils persévéraient dans la doctrine des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Tous ceux qui avaient cru s'assemblèrent et eurent tout en commun. Ils vendirent leurs biens et leurs propriétés et les partagèrent selon les besoins de chacun. Je l'ai fait parce qu'il y a des besoins. Ils faisaient chaque jour, mot important sur lequel nous allons maintenant nous appuyer, d'un commun accord dans le temple, rompant le pain de maison en maison, ils mangeaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tous les peuples. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église, voilà encore, chaque jour, ceux qui devaient être sauvés. Frères et sœurs, pendant la Pâque, nous avons reçu l'instruction de discerner le corps brisé du Christ. Pensez, nous commémorons aussi qu'en Christ, nous sommes un seul homme et un seul cœur. C'est ce que signifie la nouveauté de vie, l'unité. L'un des meilleurs indicateurs de la nouveauté de notre vie est que nous nous sentons unis les uns aux autres. Si ce n'est pas le cas, vérifiez quel homme vous portez. C'est aussi simple que cela. Si je ne me sens pas unifié, parce que l'unité peut provoquer des sentiments, je me sens unifié. Mais si vous avez l'impression d'être éloigné ou séparé de tout le monde ou de n'importe qui, vérifiez votre vieil homme. Assurez-vous de vous en débarrasser et de revêtir votre nouvel homme, parce qu'un nouvel homme en vous, la nouveauté de la vie signifie un seul homme. Ainsi, la nouveauté de vie dans sa plus grande application signifie que nous sommes un seul homme nouveau, pas seulement plusieurs. Quatrièmement, vivre la nouveauté de la vie est nécessaire chaque jour et de toutes les manières. C'est là que les choses deviennent difficiles pour le monde. Pour le christianisme mondain. C'est là que le fardeau devient trop lourd. C'est là qu'il sépare, si vous voulez, les hommes des garçons. Les femmes des filles. Ésaïe 58. Ésaïe 58. Voici comment nous pouvons vivre la nouveauté de la vie chaque jour, dans tous les domaines. Ésaïe 58 et le verset 2, « Chaque jour il me cherche, il cherche à connaître mes voies, comme une nation qui a pratiqué la justice et qui n'a pas abandonné les commandements de son Dieu. Il me demande les ordonnances de la justice, ils prennent plaisir à s'approcher de Dieu. Bien qu'il révèle ensuite qu'Israël fait fausse route, il y a une leçon à tirer. Vivre en nouveauté de vie, mes amis, mes frères, signifie chercher Dieu chaque jour. Et il y a plusieurs façons de le faire. Psaume 88. Psaume 88. Cherchez Dieu chaque jour. Ce sont des points rapides parce que nous les abordons tout le temps. L'une des façons les plus importantes de rechercher Dieu chaque jour, alors que nous vivons une vie nouvelle, c'est le psaume 88, verset 1. Seigneur, Dieu de mon salut, j'ai crié jour et nuit devant toi. que ma prière vienne à toi. Incline ton oreille vers mon cri. Mes yeux se lèvent à cause de l'affliction. Seigneur, je t'ai invoqué chaque jour. Nous cherchons Dieu chaque jour par la prière. Si nous voulons une vie nouvelle, c'est une exigence. Mais il y a une chose que nous avons souvent entendue et qui mérite d'être répétée. La prière n'est pas réservée aux mauvais moments. Elle est pour tous les temps. Encore une fois, je ne veux pas simplifier à l'extrême la prière, mais je la résume, encore une fois, à une série de « merci » et de « s'il vous plaît ». Bien sûr, la prière ne s'arrête pas là, mais c'est une bonne ligne directrice. Combien de fois voudrions-nous que nos enfants utilisent ces mots « s'il vous plaît » et « merci » lorsqu'il s'agit de la prière? J'aime penser qu'il faut la faire dans l'ordre inverse. Merci, puis s'il vous plaît. Un grand nombre de remerciements et de s'il vous plaît fonctionnent parfois mieux. Si c'est ce que nous voulons de nos enfants, comment pensez-vous que Dieu nous considère comme faisant partie de notre vocabulaire? Un remerciement important que vous pouvez inclure est de remercier Dieu chaque jour pour la nouveauté de vie qu'il vous a donnée. L'homme nouveau qui a été créé dans la justice et la sainte vérité. Et un autre merci que vous pouvez demander ou solliciter, c'est que Dieu continue à vous donner son esprit, la force, pour continuer à avancer dans cette nouveauté de vie et appliquer ce que nous venons de dire, en oubliant notre passé, en déposant le vieil homme, en revêtant l'homme nouveau, en devenant un seul homme nouveau, pas plusieurs. Frères et sœurs, une autre façon de chercher Dieu, évidemment, est l'étude quotidienne de la Bible. Dans Actes 17, il est dit que les Véréens, nous le savons, étaient considérés comme plus nobles. Pourquoi? Parce qu'ils étudiaient quotidiennement les Écritures pour prouver la vérité. Pour vivre une vie nouvelle, nous devons étudier les Écritures pour prouver les vérités qui nous ont été enseignées par le chef de Dieu, soutenu par son ministère. Nous abordons les Écritures comme de nouvelles créatures désireuses de prouver, cherchant à prouver encore et encore en renforçant et en renouvelant notre esprit les vérités qui nous ont été enseignées. Beaucoup échouent parce qu'ils n'abordent pas les choses de cette manière. Ainsi, frères, la recherche de Dieu implique de prier et d'examiner les Écritures pour prouver la vérité. Voici une autre façon de vivre quotidiennement notre nouveauté de vie. Les 15 premiers Corinthiens. Ces deux textes sont essentiels, mais je connais des gens dans le monde qui prient et lisent leur Bible. Je n'en connais pas beaucoup, mais j'en connais quelques-uns. Mais ce moyen suivant est un séparateur. Le verset 29 de la première épître aux Corinthiens s'ouvre sur la pensée suivante : que feront ceux qui sont baptisés pour les morts, si les morts ne ressuscitent pas du tout ? Pourquoi donc sont-ils baptisés pour les morts ? En d'autres termes, pourquoi faisons-nous cela ? Et pourquoi sommes-nous en danger à chaque heure ? Pas seulement tous les jours, à chaque heure, Paul était en danger. Je proteste par vos réjouissances, ou j'annonce par vos réjouissances, que j'ai dans Christ Jésus notre Seigneur, je meurs tous les jours. Frères et sœurs, vivre en nouveauté de vie exige de mourir chaque jour. C'est presque le contraire, n'est-ce pas? C'est illogique. Pour que je vive chaque jour la nouveauté de la vie, il faut que je meure chaque jour. C'est pourquoi cela n'a pas de sens pour le monde. Et pourquoi peut-il dire cela? Eh bien, qu'a dit Christ lorsqu'il a demandé aux disciples, « Qui dites-vous que je suis ?» Rappelez-vous. Christ a dit que tu es Christ de Dieu. Et voici la réponse du Christ. Nous la connaissons. Il a dit à chacun d'entre eux qui écoutait. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Combien de fois? Une semaine sur deux? Seulement à la Pâque? Pendant les jours saints? Le Seigneur Christ a dit, se charger de sa croix chaque jour et me suivre. Et je suis absolument convaincu que Paul a été instruit et a compris ces paroles du Christ. Alors, frères et sœurs, je demande si mourir chaque jour était suffisant pour Paul, être en danger si nécessaire à chaque heure pour la vie que nous vivons, n'est-ce pas suffisant pour nous? Voici une façon de l'appliquer, et nous pourrions l'appliquer de nombreuses façons différentes. Pensez-y. Nous venons de faire une offrande, deux offrandes que nous faisons pendant les jours des pains sans levain. Nous payons la dîme sur ce que nous gagnons. Eh bien, chaque fois que nous faisons cela, frères, chaque fois que nous donnons parce que nous sommes employés parce que Dieu nous a donné un emploi, c'est d'abord et avant tout pour faire avancer l'œuvre de Dieu, pas pour m'avancer moi-même, pas pour nous avancer. Nous faisons avancer l'œuvre de Dieu. Avez-vous déjà pensé que chaque fois que vous donnez la dîme et les offrandes, que vous payez la monnaie commune, votre ancien moi est en train de mourir? En fait, nous le faisons mourir. C'est ainsi que nous mettons à l'écart l'homme nouveau ou le vieil homme. Il n'y a absolument rien de mal à apprécier les bonnes choses de la vie, mais chaque fois que nous donnons, nous laissons notre ancien moi mourir de plus en plus. Chaque fois que nous décidons de traiter une personne avec respect, même si elle ne le mérite pas, ou chaque fois que nous décidons de ne pas nous mettre en colère et que nous traitons la personne avec douceur et bonté, chaque fois que nous aimons nos ennemis au lieu de les haïr, frères, nous faisons mourir notre vieil homme. Nous nous chargeons chaque jour de notre croix. Romains, chapitre 6. Romains chapitre 6 et verset 5. Car si nous avons été plantés ensemble à la ressemblance de sa mort, nous le serons aussi à la ressemblance de sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit, et que désormais nous ne servions plus le péché. Car celui qui est mort, frère, est libéré du péché. Le 11e verset, reprenant la pensée, dit, considérez que vous êtes mort au péché, mais que vous êtes vivant pour Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Le vieil homme est mort, l'homme nouveau est vivant. Ne laissez donc pas le péché régner dans votre corps mortel, pour que vous lui obéissiez dans ses convoitises. Ne livrez pas non plus vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais livrez-vous à Dieu comme des vivants d'entre les morts, et vos membres comme des instruments de justice pour Dieu. Car le péché ne dominera pas sur vous, et il continue. Frères et sœurs, plus je vis dans la nouveauté de la vie, plus je découvre à quel point je n'aime pas mon ancien moi. Je ne l'aime pas, et je suis sûr que beaucoup d'entre vous ressentent la même chose à propos de leur ancien moi. Je suis sûr que certains d'entre vous seraient d'accord avec moi pour dire que nous préférons que ces anciens moi soient morts. Je peux parler pour mon ancien moi. Pourquoi? Parce que mon ancien moi, comme il l'indique ici, était et sera toujours un esclave du péché. C'est ce que Paul disait aux Romains. Encore une fois, notre nouvel homme a été créé dans la justice et la vraie sainteté. Et lorsque nous vivons cette nouveauté de vie, nous sommes capables de nous soumettre, comme il est dit ici, à Dieu. Quel meilleur style de vie, quel meilleur engagement une personne pourrait-elle avoir que de vivre une vie qui se soumet à Dieu, à ses lois, à ses commandements, à ses jugements, guidée par son esprit de vérité. La nouveauté de vie à tous égards comprend, frères, la prière quotidienne, la vérification de la vérité par l'étude quotidienne de la Bible, le fait de porter nos croix et de mourir chaque jour, et la soumission à Dieu. C'est beaucoup, n'est-ce pas? J'ai dit que ce n'était pas facile. C'est suffisant, non? Attendez, psaume 61. Juste au moment où vous pensiez que nous avions tout sous contrôle, que nous l'avions, nous allons ajouter quelque chose d'autre à cette nouveauté de vie. Nous ne voudrions pas qu'il en soit autrement. C'est un principe puissant. On n'y pense pas toujours beaucoup, mais le verset 8 du psaume 61 est un grand principe biblique. Je chanterai ton nom à jamais, verset 8, afin d'accomplir chaque jour mes vœux. Frères et sœurs, la marche et la nouveauté de vie devraient aussi inclure le souvenir des promesses de Dieu, la prière et la louange, car il nous a donné ses promesses, y compris cette nouveauté de vie, mais la meilleure façon de montrer notre appréciation pour sa nouveauté de vie, celle qu'il nous a donnée, c'est de tenir les promesses que nous faisons. C'est ce que la nouveauté de vie exige, non seulement envers Dieu, mais aussi envers les autres et les autres personnes à qui nous faisons des promesses. Matthieu 5, 37 le dit ainsi, « Nous n'avons pas besoin de tourner là pour des raisons de temps. » Christ nous dit, « Que notre oui soit oui et que notre non soit non. » Tout ce qui est plus que cela vient du mal. En disant simplement ce que disent les psaumes, la nouveauté de vie signifie que nos oui sont oui, nos non sont non. Lorsque nous prenons un engagement, nous le respectons. Bien sûr, pas des engagements qui enfreignent les lois de Dieu. Nous ne faisons pas ce genre de promesses. Jacques 5, 12. Ce n'est pas seulement Christ qui l'a dit, Jacques au verset 12. Notez-le, le répète un peu différemment. Que votre oui soit oui et que votre non soit non pour ne pas tomber sous la condamnation. Si nous voulons éviter la condamnation, si nous voulons éviter d'avoir à nous présenter devant Dieu et à confesser que nous n'avons pas tenu nos promesses parce que c'est un Dieu qui tient ses promesses, alors que notre oui soit oui et que notre non soit non. Frères et sœurs, j'espère que vous comprendrez mieux ce que signifie vivre en nouveauté de vie et que vous comprendrez comment nous le reflétons. Nous oublions le passé. Nous revêtons individuellement notre nouvel homme, car nous ne pouvons pas porter le vieil homme et l'homme nouveau en même temps, et nous devenons dans ce processus un seul homme nouveau, un seul corps. Chaque jour, nous cherchons Dieu par la prière, nous prouvons la vérité, nous portons nos croix pour mourir, nous nous soumettons à Dieu dans notre nouvel homme et nous le louons parce qu'il tient ses promesses, et nous tenons aussi les nôtres. Frères et sœurs, ce ne sont là que quelques bribes de ce que la nouveauté de vie signifie pour Dieu et de ce qu'elle devrait signifier pour nous. Je vous ai dit que ce n'était pas facile, mais au-delà des jours des pains sans levain, au-delà du temps d'examen de conscience, au-delà du temps que nous avons passé ensemble à la Pâque, voici ce que nous avons reçu l'ordre de faire. Dieu a fait sortir Israël d'Égypte pour lui donner une nouvelle vie. Dieu nous a fait sortir du monde pour nous donner une vie nouvelle, pour vivre une vie nouvelle. Si nous vivons de cette manière, voici ce à quoi nous pouvons nous attendre, mes frères. Parce que notre Dieu est un Dieu qui récompense ceux qui sont fidèles, engagés dans ce mode de vie, et non dans leur propre version de ce qu'ils pensent être le mode de vie de Dieu, dans son mode de vie. Lamentation, chapitre 3. Au verset 21, on peut lire, « Je me le rappelle, et c'est pourquoi j'espère. Les compassions de l'Éternel ne nous anéantissent pas, ses bontés ne se démentent pas. » Au verset 23, « Elles sont nouvelles chaque matin. Grande est la fidélité de Dieu. Grande est votre fidélité. » Frères et sœurs, pour en revenir à notre point de départ, nous manquons parfois notre cible. Nous manquerons la cible en essayant de vivre cette nouveauté de vie de la manière, de certaines des manières dont je vous ai parlé aujourd'hui. Mais la compassion et la miséricorde de Dieu sont nouvelles chaque matin si vous vous en saisissez. Si vous reconnaissez votre faute, si vous la confessez, si vous vous engagez à changer et si vous allez de l'avant dans votre nouvelle vie, en enlevant votre vieil homme chaque jour quand c'est nécessaire et en revêtant votre nouvel homme. Je remercie Dieu que sa miséricorde soit nouvelle pour nous chaque jour. J'en ai besoin. Si Christ a dit à Pierre que nous devions nous pardonner les uns aux autres 70 fois 7 fois, à quoi devons-nous nous attendre? Si nous nous confessons, Si nous nous engageons à changer, que devons-nous attendre de Dieu? Quelque chose de différent. Les psaumes 68 nous indiquent un autre avantage. Notez-le. Psaume 68 et verset 19. Béni soit le Seigneur, qui chaque jour nous comble de bienfaits, le Dieu de notre salut. Dieu comble nos jours de bienfaits. Frères et sœurs, la nouveauté de la vie signifie que, quelles que soient les circonstances, nos lunettes, même si nous ne les voyons pas et que nous souffrons, sont toujours pleines si nous restons engagés à vivre la nouveauté de la vie comme Dieu l'a voulu. Ils ne sont pas remplis au quart, à la moitié ou aux trois quarts. Nos vers sont pleins parce que Dieu dit qu'il charge nos vies de bienfaits chaque jour. Nous ne pouvons peut-être pas les voir tout le temps, mais la nouveauté de la vie est une attitude qui consiste à dire « Oui, je traverse cette épreuve, mais je vais rester engagé. » Frères et sœurs, pourquoi Paul, pourquoi nous consacrons notre vie à cette nouveauté de vie? Et je n'en ai partagé que des bribes. Pourquoi le ferions-nous au milieu des persécutions et des épreuves, des attaques de toutes parts, de tous côtés, chaque jour? Il s'agit de choses nouvelles. Apocalypse 21. Oui, Dieu nous donne chaque jour sa miséricorde, ses compassions et ses bienfaits, mais si nous nous en tenons à cette nouveauté de vie, frères, voici ce qui nous attend. Apocalypse 21, verset 1. Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Frères et sœurs, les paroles du prédicateur, la question du roi Salomon ne s'appliquera plus, parce que nous n'aurons plus l'ancien soleil, nous en aurons un nouveau. Nous n'aurons plus l'ancienne terre, nous en aurons une nouvelle. Ce verset, si vous lisez le verset 5, celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont vraies et fidèles. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. » Frères et sœurs, nous pouvons avoir confiance dans la véracité et la fidélité de cette promesse. Dieu fera toutes choses nouvelles. Un dernier verset, Apocalypse 14, qui parle de choses nouvelles. Verset 1. Je regardais, et voici, un agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes, qui avaient le nom de son père écrit sur leur front. Verset 3. Ils chantèrent un cantique nouveau devant le trône, devant les quatre êtres vivants et devant les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre ce cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Frères et sœurs, j'hésite à prétendre que c'est la chose la plus excitante qui nous attend, mais elle est certainement dans le haut du panier. C'est une récompense éternelle unique réservée à ceux qui vivent selon cette merveilleuse nouveauté de vie que Dieu nous a donnée, à vous et à moi, en faisant toutes les choses et plus que ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Et si j'hésite à affirmer qu'il s'agit là de la nouveauté la plus excitante, c'est parce qu'il est également écrit, l'œil de l'homme. Parce qu'il est également écrit, l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, et il n'est pas entré dans le cœur des hommes ce que Dieu a préparé pour ceux qu'il aime, et j'ajouterai ce qui est nouveau. Frères et sœurs, c'est l'ultime nouveauté de la vie. Ce que nous avons appris aujourd'hui n'est qu'un début.